VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec en votre compagnie. Le Monde Aujourd'hui, deuxième édition de la soirée. À la une de ce vendredi 24 février 2017, l'armée ougandaise annonce l'arrestation de dizaines de combattants du M23. Les donateurs promettent 672 millions de dollars d'aide au Nigeria et aux autres pays riverains du lac Tchad pour aider les victimes de Boko Haram. Les violences xénophobes s'intensifient à Pretoria. La police sud-africaine est intervenue aujourd'hui pour empêcher une bataille rangée entre riverains et immigrés. Et puis, deux attentats suicides ce vendredi près du village syrien d'Al-Bab ont fait plusieurs dizaines de morts. Bien sûr, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. L'armée ougandaise annonce avoir arrêté des dizaines de combattants du groupe rebelle M23 qui ont fui la République démocratique du Congo après des affrontements cette semaine avec des troupes congolaises. Jacques Aristide.
Il s'agit précisément de 44 rebelles du M23 qui sont détenus dans la ville de Kisoro, d'après Richard Karemire, porte-parole de l'armée ougandaise. Ils auraient traversé la frontière suite au combat en début de semaine à Rutshuru, dans le Nord Kivu, avec les forces armées de la RDC. Selon le responsable militaire congolais Guillaume Djike, 16 rebelles ont été tués dans ces affrontements et 5 capturés. Depuis novembre, Kinshasa accuse Kampala d'encourager les rebelles du M23 à retourner dans l'est du Congo pour relancer leur rébellion après leur défaite en 2013. Mais le porte-parole militaire ougandais a rejeté ces accusations. « Nous n'exportons pas de combattants en RDC », affirme Richard Karemire. L'Ouganda indique avoir intercepté le mois dernier des dizaines de rebelles en route vers le Congo. Le gouvernement de Joseph Kabila a déclaré aux Nations Unies que la réémergence de la rébellion M23 mettrait en danger l'accord avec l'opposition en vue de la présidentielle cette année.
Nouvelle vidéo d'Aboubakar Shekau. Dans l'enregistrement obtenu par l'AFP, le leader de Boko Haram annonce avoir tué Tassiou, un de ses membres éminents, à qui il usait de comploter contre lui. Connu également sous le nom d'Abou Zinira, Tassiou était apparu dans plusieurs vidéos du groupe islamiste nigérian, notamment celle pour revendiquer l'enlèvement des lycéennes de Chibok en 2014. Et c'est dans ce contexte que des donateurs promettent 672 millions de dollars d'aide au Nigeria et aux autres pays riverains du lac Tchad en proie aux attaques de Boko Haram. Réunis à Oslo, ONG, institutions et pays donateurs entendent ainsi aider les victimes du groupe djihadiste, notamment les millions de déplacés au bord de la famine. Claire Morin-Gibourg.
Le montant promis est bien en deçà des besoins de la région. Selon les Nations Unies, le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad ont besoin de 1,5 milliard de dollars d'aide d'urgence rien que cette année. Les États-Unis n'ont pas annoncé le montant de leur contribution. Le président Donald Trump a dit vouloir réduire son aide internationale, mais sans précision. Sur les 672 millions de dollars promis à Oslo, 457 millions le sont au titre de l'année 2017. Stephen O'Brien, le sous-secrétaire général de l'ONU, reste confiant quant à l'objectif annuel, car le montant a été levé en une seule matinée. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyema, précise qu'avec cette somme, seule la partie émergée des besoins pourra être traitée. Il a toutefois déclaré que son pays était immensément reconnaissant.
Les violences xénophobes s'intensifient à Pretoria. La police sud-africaine est intervenue aujourd'hui pour prévenir des affrontements entre riverains et immigrés lors d'une manifestation contre les étrangers. La tension est à son comble dans la capitale, comme nous le rapporte Saloua Jafari.
Près d'un millier de manifestants en colère dans les rues de Pretoria. Ils accusent des immigrés de leur voler leur gagne-pain et d'encourager la débauche et la criminalité.
Ils sont partout. Qu'en est-il de l'avenir de nos enfants ?
La police est intervenue de manière musclée pour éviter une bataille rangée. Depuis deux semaines, des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers, notamment des Nigérians et soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou de trafic de drogue, ont été brûlés par des habitants en colère à Johannesburg et dans la capitale. Ces attaques qui n'ont pas fait de victimes sont fréquentes en Afrique du Sud, nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté qui affecte la population noire. Le Nigeria a convoqué jeudi l'ambassadeur sud-africain pour lui faire part de sa profonde préoccupation et exiger des mesures de protection de vie et des biens des étrangers. Le président Jacob Zuma est intervenu vendredi pour condamner les violences et appeler au calme.
Le ton monte entre Luanda et Lisbonne. Les autorités angolaises dénoncent l'inculpation du vice-président Manuel Vicente par la justice portugaise dans une affaire de corruption, avertissant que cela pourrait remettre en cause les relations entre les deux pays. Cette affaire avait déjà provoqué l'annulation cette semaine par Luanda d'une visite en Angola de la ministre portugaise de la Justice. Angola toujours, adoption d'une réforme du code pénal héritée de la colonisation portugaise. Le nouveau texte autorise notamment l'avortement en cas de viol et lorsque la vie de la mère est en danger. En dehors de ces exceptions, l'avortement demeure un délit puni de peine de prison ferme, souligne le Parlement. Attaque contre les Coptes en Égypte. Des dizaines de chrétiens ont dû fuir la péninsule du Sinaï après une série d'attaques qui ont coûté la vie à 3 Coptes dans cette région où sévit le groupe État islamique. Et des responsables de l'église copte indiquent qu'ils ont trouvé refuge dans une église évangélique de la ville d'Ismaïlia, près du canal de Suez. Et puis l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, de nouveau condamné par contumace dans son pays. Déchu lors du printemps arabe, il écope cette fois-ci de 8 ans de prison ferme pour abus de pouvoir. Il faut dire que Ben Ali est exilé en Arabie Saoudite. Son gendre Sakr El Materi, qui vit aux Seychelles, a lui écopé de 6 ans de prison ferme dans la même affaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, 2 attentats suicides ce vendredi près du village syrien d'Al-Bab ont fait plusieurs dizaines de morts. Ces attaques interviennent un jour après la prise de cette ville stratégique par les forces turques et leurs alliés de la rébellion syrienne. Gabi Dorsil.
Les attaques n'étaient pas simultanées, mais ont pris pour cible le même endroit. Les autorités turques et les médias locaux font état de 65 morts, dont plusieurs civils, des combattants rebelles et au moins 2 soldats turcs. La première explosion a touché un poste de sécurité de l'opposition dans le village de Soussian, où les habitants s'étaient rassemblés pour obtenir un permis de retour à Al-Bab. Les troupes turques et leurs alliés avaient repris Al-Bab la veille aux combattants du groupe État islamique. La seconde attaque a eu lieu alors que les riverains et équipes de secours récupéraient les corps des victimes. Al-Bab tombé, les djihadistes auront recours à de telles attaques, prédisent les observateurs, pour maintenir une présence face aux forces turques et rebelles syriens. L'assaut final pour déloger Daesh de la ville d'Al-Bab cette semaine a laissé un lourd bilan, au moins 127 civils morts, y compris 38 enfants.
Gabi Dorsil, sachez aussi que le bombardement de l'armée de l'air irakienne contre des positions du groupe djihadiste État islamique en Syrie s'est fait en coordination avec Damas. C'est ce qu'affirme aujourd'hui une source proche du ministère syrien des Affaires étrangères. Au Yémen, 8 soldats ont été tués dans un attentat suicide dans le sud du pays. 35 rebelles et combattants tribaux ont par ailleurs trouvé la mort dans des affrontements plus au nord, selon des sources de sécurité et un responsable local cité par l'AFP. Au Proche-Orient, des centaines de manifestants palestiniens ont affronté des soldats israéliens à Hébron, en Cisjordanie occupée. Ils défilaient pour commémorer un massacre commis en 1994 par un colon israélien. Et les soldats ont tenté de disperser la manifestation à l'aide de grenades lacrymogènes et assourdissantes. L'armée a été déployée par les Palestiniens qui ont répliqué en lançant des pierres. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'en est pris à la police fédérale américaine, le FBI, incapable selon lui de démasquer les agents qui renseignent la presse au sein même de l'institution. Une initiative assez peu habituelle de la part d'un président. L'administration Trump est sur la défensive face à des accusations de liens inappropriés avec la Russie. Plusieurs enquêtes étant en cours à ce sujet, dont une au FBI. En France, Marine Le Pen a réitéré son refus de répondre aux convocations de la police pour s'expliquer sur une affaire d'emploi fictif au Parlement européen. La présidente du Front National avait déjà refusé mercredi de se déplacer pour une audition libre dans le cadre d'une enquête qui a conduit le même jour à l'inculpation d'une de ses proches collaboratrices. Comme pendant les régionales, je ne répondrai pas pendant la campagne électorale, cette période ne permettant ni la neutralité ni la sérénité nécessaire au fonctionnement correct de la justice, a affirmé aujourd'hui Madame Le Pen à l'AFP. Et puis enfin, technologie, Google lance Perspective, un outil informatique basé sur l'intelligence artificielle qui aidera les médias à modérer automatiquement les commentaires en ligne en bloquant les messages haineux. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le prix de l'essence à la pompe a de nouveau subi une augmentation en République démocratique du Congo ce vendredi. Il s'agit de la troisième augmentation du prix de l'essence enregistrée en 6 mois. À la mi-journée, quelques stations-service de Kinshasa ont vendu le litre d'essence à 1 615 francs au lieu de 1 540 auparavant. Cette augmentation a été décidée après concertation avec le gouvernement, selon Emery Banchibope, président des distributeurs de produits pétroliers en RDC. Au Cameroun, le prix du poulet a considérablement chuté sur les marchés. Vendu habituellement à 3 500 francs CFA, il est aujourd'hui disponible entre 1 500 et 1 800 francs CFA. La raison ? Après la grippe aviaire, la plupart des fermiers ont produit tellement de poules qu'aujourd'hui il y a trop de stocks, d'où ces opérations de rabais. Entre mai et septembre 2016, une épidémie de grippe aviaire avait décimé des milliers de poulets au Cameroun avant la survenue de la hausse traditionnelle des prix pour les fêtes de fin d'année. Jumia, le leader de la vente en ligne au Nigeria, étoffe son offre dans le domaine des voyages. Jumia Travel, qui était principalement dédié à la réservation d'hôtels, propose désormais la réservation de vols intérieurs et internationaux via sa plateforme d'achat. Leur système permet de comparer le prix des billets, notamment sur des compagnies africaines comme Air Côte d'Ivoire, Kenya Airways, Ethiopian ou South African Airways.
Et sans transition, nous enchaînons avec les sports. Nicolas Pino ce soir. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le président de la FIFA en tournée en Afrique.
Après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, Gianni Infantino arrive ce soir au Rwanda où il restera 24 heures avant de se rendre en Ouganda et il sera au Niger lundi. Le président de la FIFA a promis une Coupe du Monde 2026 à 48 équipes et le continent africain qui réclame 10 places et non 9 comme ce serait le cas actuellement.
Et Nico, de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League.
Le favori Manchester United hérite d'un tirage clément face à Rostov, mais la réaction de José Mourinho, l'entraîneur, vaut son pesant d'or. C'est un mauvais tirage à tout point de vue et c'est loin, c'est ce qu'a déclaré le technicien portugais. Il faudra donc négocier un long périple en avion pour couvrir les 3000 km qui séparent les deux villes le 9 mars prochain. Dans son malheur, José Mourinho a de la chance, le match retour aura lieu à Old Trafford, ce sera le 16 mars. L'affiche de ces huitièmes de finale, ce sera bien évidemment Lyon contre l'AS Rome. L'AS Rome qui est deuxième de la Serie A et le retour aura lieu en Italie. Le tirage a réservé des derbies avec un choc allemand, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach et une affiche belge, la Gantoise contre Genk. Les autres oppositions sont le Celta Vigo face à Krasnodar, l'Apoel Nicosie contre Anderlecht, l'Olympiakos contre Beşiktaş et Copenhague face à l'Ajax d'Amsterdam.
Avant de nous quitter, Nico, quelques résultats du championnat de basket nord-américain, c'est la NBA.
Oui, les Warriors ont dominé les Lakers de Los Angeles, 123-113. Les Cavaliers de Cleveland qui battent New York, 119-104. Dans les autres rencontres, Houston a gâché dans les grandes largeurs. Les grands débuts de DeMarcus Cousins à la Nouvelle-Orléans, 129-99. A noter également la belle remontée de Détroit contre Charlotte, 18 points de retard effacés pour s'imposer en prolongation, 114-108.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. On enchaîne sur les dossiers du jour. La conférence des donateurs pour les victimes du groupe armé Boko Haram dans la région du lac Tchad a pris fin aujourd'hui à Oslo. Les organisateurs espéraient récolter 1 milliard de dollars, mais n'ont eu que 672 millions en promesses de dons. Cela n'a pas empêché la FAO d'en tirer un bilan positif. Dominique Burgeon est directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO. Il répond aux questions d'Abdourahmane Dia.
Il est absolument fondamental que, outre les confirmations qui ont été faites aujourd'hui, on puisse maintenir l'effort pour effectivement mobiliser des fonds de nouveau pour une aide humanitaire d'urgence, mais aussi et surtout, dans notre point de vue, il est important, en ce qui concerne par exemple la sécurité alimentaire, non seulement d'appuyer les gens à survivre aujourd'hui, c'est-à-dire à ne pas tomber dans le précipice de la famine, hein, qui demeure bien réelle, aux Nigériens, mais surtout de leur donner les moyens de pouvoir reprendre partout où c'est possible et partout évidemment où la situation est suffisamment stable et sûre, à reprendre leurs activités productives.
Le lac Tchad est une zone très vaste. Quelles sont, selon la FAO, les priorités? Où se trouvent les priorités aujourd'hui?
Bon alors, la priorité aujourd'hui, c'est une priorité humanitaire. C'est-à-dire que dans l'ensemble des pays du lac Tchad, on a environ 7,1 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire sévère et pour lesquelles il faut donc une action immédiate, une action à court terme. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial pour nous assurer d'une part que le Programme alimentaire mondial puisse apporter une assistance alimentaire la plus rapide possible, mais qu'au même moment, et surtout je dirais dans l'optique de la saison agricole qui commence en avril-mai, les populations puissent reprendre leurs activités productives. Toutefois, je pense qu'il est important de signaler que ce n'est là que le début d'un processus plus long, puisque nous ne sortirons vraiment de cette situation tout d'abord que quand il y aura de la stabilité au plan des activités militaires et des groupes armés qui s'y déroulent, mais aussi quand on pourra vraiment reprendre des activités visant à renforcer la résilience des populations.
Et justement, comment comptez-vous travailler efficacement dans cette zone quand on sait que les travailleurs humanitaires sont pris pour cible par les groupes armés?
Alors évidemment, la sécurité de nos collègues et de nos partenaires est un souci permanent. Nous devons, je dirais, rester et adapter nos procédures et nos moyens de travail en tenant compte de cette situation. Et je dirais, ce que nous faisons aussi, c'est travailler de plus en plus, et c'est dans l'optique de ce qui avait été décidé l'an dernier en mai au sommet humanitaire mondial, quand effectivement nous nous sommes engagés à travailler davantage avec les partenaires locaux, lesquels connaissent beaucoup mieux et sont plus acceptés par le contexte local.
Dominique Burgeon, directeur de la division des urgences et de la réhabilitation de la FAO.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Ouverture samedi du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Environ 200 films et des milliers de projections, souvent en plein air ou dans des lieux insolites, sont prévus pour cette 27e édition, grande rencontre du 7e art en Afrique. Nathalie Barge a joint la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, dont le long métrage Frontières sera projeté à l'ouverture du festival.
Frontières, vraiment, c'est l'histoire de quatre femmes de différents pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Nigeria, qui vont se rencontrer au fur et à mesure que l'on traverse ces frontières-là, parce que frontières, déjà, c'est un road movie, comme on l'appelle. On commence par le Sénégal et on descend jusqu'au Nigeria. Et ces femmes-là vont se rencontrer au fur et à mesure, par hasard, dans le bus. Et après, il y aura évidemment des péripéties et des problèmes assez lourds. Elles seront obligées de se mettre ensemble et de s'aider pour survivre, voilà.
Alors, le thème de cette année du FESPACO est « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, dans ce domaine-là, justement, par rapport à l'accès à la formation du cinéma ?
C'est un sujet très, très, très important, parce que moi, en tant que réalisatrice, je me vois très souvent, et à chaque fois, former les acteurs que je choisis. C'est vrai que nous avons des périodes de répétition, mais ces périodes de répétition, malheureusement, pour ce que, en tout cas, je voudrais avoir dans mon film, je me retrouve à travailler pendant des mois et des mois avec les acteurs pour avoir le résultat que je veux. Et normalement, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon boulot. Et on se retrouve avec des gens qui ont un certain talent, certaines compétences, mais qui n'ont pas eu de formation parce que sur le jeu d'acteur, on voit vraiment le jeu d'acteur au niveau du théâtre. Mais au niveau du cinéma, ça n'existe pas. Deuxièmement, au niveau technique, aujourd'hui encore en Afrique, on est obligé évidemment de s'exporter en Europe ou aux États-Unis ou au Canada pour finaliser nos films parce qu'on n'a pas de très bons mixeurs, on n'a pas d'étalonneurs, on n'a pas de bruteurs. Donc on a des monteurs de base et on est obligé de partir chercher autre chose ailleurs.
Est-ce que la compétition au niveau du cinéma africain est de plus en plus difficile ou autrement dit, est-ce qu'il y a de plus en plus de réalisateurs et de bons films ?
Ah ben oui, quand le numérique a fait un boom, la qualité en tout cas des films pour moi avait dégringolé un peu en comparant avec les films de nos grands frères comme Gaston Caboret, Souleymane Cissé et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris mieux l'outil du numérique et qu'on a compris qu'avec le numérique, et surtout aujourd'hui la 4K, on pouvait faire de très très belles choses. Donc je pense que ces 2-3 dernières années, le cinéma africain est en train de se rehausser et évidemment la compétition devient beaucoup plus difficile et, parce qu'on a de très 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 beaux films, visuellement surtout.
Apolline Traoré, la cinéaste burkinabé, jointe à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président Donald Trump s'est adressé à des centaines de républicains réunis près de Washington pour la convention CPAC, une rencontre annuelle des conservateurs. Donald Trump a une nouvelle fois critiqué les médias. Bagassi Koura, il est aussi revenu sur ses promesses de campagne.
Trump s'est adressé à ses partisans réunis dans une grande salle archi-comble au National Harbor dans la banlieue de Washington. Il a longuement critiqué les médias qui, selon lui, ne disent jamais la vérité. M. Trump a semblé répondre à ses critiques en soulignant que tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est de tenir ses promesses de campagne, notamment sur l'immigration.
We're getting bad people out of this country.
Nous mettons toutes les mauvaises personnes hors de ce pays. Des gens qui ne devraient pas être là, soit à cause du trafic de drogue, des meurtres ou autre chose. Nous allons mettre les mauvais dehors. Ce sont eux qui partiront d'abord. Et je l'ai dit depuis le premier jour. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est de tenir mes promesses.
Il a une nouvelle fois affirmé que le mur sera construit entre les États-Unis et le Mexique.
We've taken swift and strong action to secure the southern border of the United States.
Nous prenons des mesures vigoureuses pour sécuriser la frontière sud et de commencer la construction des murs frontaliers très, très, très somptueux.
Il a dénoncé le programme de santé mis en place par Barack Obama, son prédécesseur, un programme qu'il promet de supprimer et remplacer. La plupart des accords commerciaux ne sont pas à la faveur des États-Unis, a dit le président américain, qui promet qu'il fera tout pour défendre les intérêts des États-Unis d'abord.
But there is no such thing as a global anthem.
Il n'y a pas un hymne mondial, une monnaie mondiale ou un drapeau mondial. Je représente les États-Unis. Je ne représente pas le globe. Je représente votre pays.
C'est une foule en délire et des tonnerres d'applaudissements qui ont ponctué le discours de Donald Trump qui semblait prêcher à des convertis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les gouvernements des pays en développement et l'Organisation mondiale de la santé exhortent les parents à faire vacciner leurs enfants. Pour l'OMS, la vaccination est l'un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé. Néanmoins, aux États-Unis, certains parents choisissent de ne pas faire vacciner leurs enfants. Le point avec Dilly Dico.
Pour comprendre ce phénomène anti-vaccination, une explication du docteur Peter Otez de la faculté de médecine Baylor au Texas.
Ce qui se passe ici au Texas est assez inquiétant. C'est un mouvement bien organisé, à tel point que nous devons faire face à une réalité de 50 000 enfants texans dont les parents ont refusé de les faire vacciner.
Le docteur Otez et d'autres médecins craignent que des maladies éradiquées aux États-Unis reviennent à cause de ce phénomène anti-vaccination. Ils s'inquiètent particulièrement d'un retour de la rougeole, une maladie très contagieuse, souvent mortelle. Les parents qui sont sceptiques sur les vaccins reçoivent des messages erronés de célébrités et même du président Donald Trump qui, lors de sa campagne présidentielle, avait associé les vaccins à l'autisme. Le docteur Otez explique.
Je suis un chercheur. Je fais des vaccins contre les maladies tropicales négligées à cause de la pauvreté. Je suis aussi le père d'une jeune femme adulte atteinte d'autisme et d'autres handicaps mentaux. Et de nos jours, nous avons une quantité massive de données montrant que l'état neurologique des cerveaux des enfants autistes est altéré au début de la grossesse, bien avant de recevoir des vaccins.
Le médecin s'est également préoccupé de la propagation de ce mouvement à d'autres pays peuplés comme l'Inde, la Chine et le Nigeria.
Mon inquiétude est que nous retournions en arrière en refusant le progrès et en cautionnant ces phénomènes anti-vaccins.
Pour rappel, la vaccination permet, selon l'OMS, d'éviter plus de 2 à 3 millions de décès par an.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des effets du tabac sur la santé.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo pour toucher du doigt la réalité du phénomène.
Nous recevons comme invité le professeur Jean-Marie Kayembe. Il est pneumologue. Il nous expliquera comment se développe la dépendance chez les fumeurs et les conséquences sur le corps humain.
Nous écouterons le témoignage du docteur Abraham Mifundu, expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. Il nous dira ce que font les autorités pour réduire la consommation du tabac.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, les dimanches et les mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Voilà, c'était Zaina Wake Up. C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Souleymane Tarawalé, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.